Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Alors, l'Épître aux Hébreux est une épître qui parle de la supériorité du sacrifice de Christ et du culte sous la Nouvelle Alliance par rapport au culte sous l'Ancienne Alliance. On a parlé avec les anciens et on a pensé qu'il serait intéressant de parler un peu du culte. Du culte que nous rendons à Dieu. Parce que lorsque nous venons ici, alors on peut penser au culte personnel, on peut penser au culte de famille, mais aussi particulièrement au culte collectif, le culte que nous rendons à Dieu lorsque nous venons dans ces lieux. Qu'est-ce que ça veut dire rendre un culte à Dieu? Qu'est-ce que le culte? Voilà une question pour vous. Vous pouvez cogiter en votre esprit, quelqu'un vous pose la question, qu'est-ce qu'un culte? Et qu'est-ce que vous allez répondre? Et nous avons sans doute notre propre idée sur la question. Le terme de culte même, parfois, revêt dans notre esprit des significations différentes. Il sert parfois de ligne de démarcation pour différencier catholiques et protestants. On dit souvent, catholiques ont la messe, les protestants, ils ont le culte. Alors, les catholiques disent « je vais à la messe », les protestants disent « je vais au culte ». Et parfois, c'est juste un outil de différenciation. Il indique, comme je viens de le dire, une activité que l'on s'apprête à exercer. « Je vais au culte ». On dit cela comme quand on dit « je vais au sport ». C'est-à-dire « je vais pratiquer quelque chose ». Et donc, la question du culte, on remarque aussi souvent qu'elle est abordée en termes d'affection, de sensibilité, parfois de style ou d'atmosphère. On choisit un lieu de culte en fonction de ce que l'on y trouve, parfois de ce que l'on ressent, de l'atmosphère. Je lisais quelqu'un qui disait qu'il avait visité, je ne sais plus de quel pays c'était, mais il avait visité des églises, un pays où il y a beaucoup d'églises, peut-être c'était aux États-Unis, et il était impressionné de voir la quantité d'églises qu'il y avait, mais les églises étaient obligées de rivaliser d'imagination pour attirer les gens, et ils affichaient sur leurs panneaux le style du culte qu'il y avait dans l'église. Plutôt musique contemporaine, ou plutôt ceci, plutôt cela. Et parfois, même ici, je veux dire en France, quoi, les gens posent des questions, mais quel style de culte vous avez? Quelqu'un est venu une fois, il a dit, ah, vous chantez encore sur les ailes de la foi, mais c'est démodé, ça. Voilà, donc il y a parfois, c'est ça pour nous le culte, c'est comment, quel style, on parle du culte rendu à Dieu en termes de style, d'atmosphère, de choses que nous allons avoir dans cela. Et on pourrait se poser la question, quand je cherche une église, quels sont les critères sur lesquels je me base pour pouvoir faire un choix? Qu'est-ce que le culte en réalité? En quoi consiste-t-il? Et je crois que l'Écriture ne nous laisse pas sans réponse à cette question. Et je pense que c'est une question importante parce que nous venons ici et nous disons rendre un culte à Dieu. Donc il est important que nous sachions ce que c'est que de rendre un culte à Dieu, ce que c'est qu'un culte, ce que cela représente, ce que l'Écriture en dit. Donc on pourra prendre plusieurs semaines, pas forcément des semaines d'affilée, mais plusieurs semaines peut-être pour en parler. Et aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur un texte qui se trouve dans Hébreux au chapitre 12. Et nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 29. Hébreux chapitre 12, verset 18 jusqu'au verset 29. Nous lisons ceci dans la parole de Dieu. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit point adressé une de plus. L'auteur parle de l'expérience, je vous aurais dû vous le dire au départ, qu'a fait le peuple, il rappelle de cela dans, au mont du Sinaï, dans Exode chapitre 14. Et il parle à ces Hébreux qui sont beaucoup plus loin dans le temps après, et en disant, voilà, vous n'avez pas été comme eux, ce n'est pas de cela que vous vous êtes approchés. Donc ici, pour vous, que vous puissiez bien situer le contexte. Et donc, il parle à des croyants qui sont issus du judaïsme et qui sont persécutés et qui ont une tendance à revenir au judaïsme parce qu'ils souffrent tellement. Il leur rappelle ce qu'ils ont connu. Donc, je reprends au verset 20. Il dit, car ils ont dit, donc ils ne voulaient plus entendre cette parole, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidé. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Même vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, des inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux ? Lui dont la voix ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, verset 28, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Voilà. Rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, il dit ici, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le titre de ce message ce matin, c'est « Le culte à Dieu, une offrande de reconnaissance conforme à la nature de Dieu. » Le culte à Dieu est une offrande de reconnaissance conforme à la nature de Dieu. Premièrement, le culte est d'abord une offrande à Dieu. Je ne sais pas ce que vous pensez quand vous venez au culte, mais l'Écriture nous dit ici, le culte est une offrande à Dieu. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu, en offrant à Dieu, un culte qui lui soit agréable. Le culte est en premier lieu pour Dieu. Le culte est en premier lieu pour Dieu. Je ne viens pas, il n'est pas dit ici que le culte est pour le confort de ces Israélites, il est dit que le culte est en premier lieu pour Dieu. Et cette conscience doit être maintenue chez le croyant qui prétend rendre un culte à Dieu. Cela, n'est-ce pas, nous interpelle sur ce que l'on peut attendre donc d'un culte. Il doit être organisé, il doit être orienté, de manière à constituer une offrande à Dieu. En fait, ceux qui rendent un culte à Dieu, ils viennent pour donner quelque chose. Ils viennent pour offrir. D'accord ? Parfois, on dit, bah, j'ai rien reçu pendant ce culte. C'est peut-être parce qu'on s'est trompé sur ce que le culte est vraiment. Je comprends ce que ça veut dire, hein, peut-être. Mais en droit, celui qui vient au culte, il vient au culte pour offrir. Et quand on lit dans l'Écriture, cette pensée, d'accord, traverse toute l'Écriture. Lorsque Dieu délivre son peuple d'Israël de l'Égypte, il fait dire à Pharaon par Moïse, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Le mot « culte » ici est parfois traduit par « servir ». C'est le service que l'on offre à Dieu. « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Ils sont rachetés pour servir et pour rendre un culte à Dieu, pour l'adorer. Et donc, dans le culte, il est d'abord question de ce que l'adorateur apporte à Dieu. Ce que l'adorateur apporte à Dieu. Dans Osée chapitre 14, verset 2, nous pouvons lire ceci. « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne nos iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres. » Dieu veut un peuple qui vienne pour lui offrir l'hommage de ses lèvres. Donc, quand nous nous rendons au culte, quand on le voit dans l'Écriture, il est d'abord question d'offrir. Ce que l'apôtre Paul dit aux Romains, si vous lisez la lettre aux Romains, il y a 16 chapitres au total, 11 chapitres, et dans les 11 premiers chapitres, l'apôtre Paul fait une large exposition de ce que c'est que l'Évangile, et il exprime vraiment ce que sont les compassions de Dieu. Il y arrive au verset 12, chapitre 12, verset 1, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, il parle aux chrétiens, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » D'accord ? Il dit, « Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, c'est-à-dire en regard à tout ce que Dieu a fait, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un quoi ? Un culte spirituel. » Donc le culte consiste d'abord à offrir à Dieu. C'est important de saisir cela. Quoi que nous fassions dans un culte, il consiste à offrir. Bibliquement, il consiste à offrir à Dieu. Lorsque dans le livre du prophète Malachie, Dieu reproche à son peuple le culte. Qu'est-ce qu'il lui reproche ? Il lui reproche d'offrir des animaux qui ne sont pas saints. Il dit, voilà, offre-le à ton gouverneur. Est-ce qu'il te recevra ? Donc, il parle encore de choses que le peuple lui offrait. D'accord ? Donc, le culte est d'abord ce que l'on offre à Dieu. Et je disais, tout ce que l'on fait dans un culte, c'est d'offrir. On vient pour offrir le fruit de nos lèvres. Ce que nous avons chanté, nous avons porté ça comme une offrande. Quand nous prions dans le culte, c'est aussi quelque chose que nous offrons. Nous devons avoir conscience de cela, parce que cela forge notre prière aussi. Le culte n'est pas un lieu pour les prières d'intercession en tant que telles, même si les prières d'intercession sont importantes. Il y a des temps pour demander à Dieu des choses. Le culte, et donc quand on prie le dimanche matin dans le culte, on ne prie pas pour le travail, pour la santé, pour ces choses. On offre à Dieu une prière au nom de tout le peuple. On offre à Dieu quelque chose qui est une, on va le voir après, une reconnaissance pour ce qu'il a fait. Et donc la prière ne consiste pas à dire « je », mais « nous », souvent, quand nous prions ensemble le dimanche. Il y en a un qui prie, et il prie au nom de tous les autres pour adorer Dieu et pour offrir une prière de reconnaissance à Dieu. Le fruit de lèvres qui confesse son nom, hein. Comme on a entendu ce matin dans une prière. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. C'est cela, on remercie Dieu pour son œuvre, pour le sacrifice qui a été accompli à la croix du Calvaire. Par conséquent, le culte est d'abord et concerne exclusivement le croyant. Ça ne veut pas dire que l'incroyant ne peut pas s'y trouver. Mais celui qui offre à Dieu, ici dans l'Écriture on le voit, c'est celui qui a conscience de ce que Dieu a fait pour lui. En la personne, on va le voir après, de Jésus-Christ. Donc c'est d'abord le croyant qui offre à Dieu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Tout ce que nous faisons dans le culte doit avoir cette orientation d'offrir à Dieu. Nous offrons de notre temps. Et oui, quand nous venons, nous offrons de notre argent quand nous donnons les dîmes. Regardez juste à côté, Hébreux chapitre 13, verset 15, il est dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est exactement ce que nous avons lu dans Osée 14 tout à l'heure. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, les dons, c'est ça que ça veut dire, hein, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir au fait que l'on confesse son nom, qu'on le loue, qu'on lui offre l'adoration qui lui est due. Mais qu'on le fasse de toutes les manières qui soient, par la prière, par l'offrande de notre temps, de notre force, de notre argent, de nos moyens, de nos ressources. Et même lorsque nous écoutons la prédication, nous sommes en train d'offrir. Nous offrons quoi à Dieu ? Nous offrons une écoute attentive à sa parole. Donc tout dans le culte est une offrande. Et quand on vient au culte, eh bien on doit venir les mains pleines, le cœur plein, prêt à offrir. C'est pour cela que nous avons à l'avance les thèmes d'adoration. C'est pour que nous puissions venir avec quelque chose sur le cœur, pas juste un truc qu'on met dans la main. Parfois, quand on passe les offrandes, on met la main vide dans la poche pour savoir qu'est-ce qu'il y a, on n'a pas pensé à cela, et puis ensuite on dit, hop, on a mis une petite pièce. Et il arrive que dans le partage d'adoration, on soit un petit peu pareil. Vite, un petit verset qu'on n'a pas pensé pour pouvoir lire. Non, on se prépare à offrir, parce qu'on vient pour cela. Et on ne vient pas les mains vides. Regardez ce que Dieu dit dans Deutéronome 16, ça dit, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, Deutéronome 16, devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. D'accord ? On ne vient pas offrir à Dieu avec les mains vides. Il y a de quoi exprimer avec nos lèvres, avec notre vie, avec notre être tout entier. D'accord ? L'adoration envers lui. Ça, c'est donc la première chose. Le culte est une offrande à Dieu. Mais le culte est l'expression aussi de la reconnaissance envers Dieu. Regardez encore notre verset 28. Il dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Le culte est la manifestation de la reconnaissance envers Dieu pour son don. Lorsque nous venons pour adorer Dieu, nous manifestons que nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour quoi ? Bien, reconnaissants pour ce qui a été reçu. Qu'est-ce qu'il dit ici, verset 28 ? C'est pourquoi, recevant quoi ? Un royaume inébranlable. Il dit ici aux Israélites, vous avez reçu un royaume inébranlable. Certes, vous souffrez. Certes, la persécution est rude. La tentation est de retourner au judaïsme. Mais n'oubliez pas une chose, vous avez reçu un royaume inébranlable. Alors montrez votre reconnaissance en rendant à Dieu un culte. Il est en train de dire que si vous demeurez reconnaissant, mais vous aurez les ressources nécessaires pour surmonter la persécution. Là, le culte est l'expression de la reconnaissance. Et cette reconnaissance a pour base ce qui a été reçu en Jésus-Christ. Parce que c'est ce dont il s'agit ici. Vous avez reçu un royaume, dit-il, inébranlable. L'auteur ouvre les yeux des croyants qui sont tentés de revenir au judaïsme sur le caractère infiniment élevé de ce qu'ils ont reçu en Jésus-Christ. D'accord ? On a dit que tout à l'heure que l'épître aux Hébreux, c'est l'épître des superlatifs. La supériorité du sacerdoce de Christ sur le sacerdoce de l'ancienne alliance. C'est tout ce dont traite l'épître aux Hébreux. Et si vous lisez l'épître aux Hébreux, vous allez voir qu'il y a beaucoup de fois meilleur, plus excellent, supérieur, en parlant de Christ, n'est-ce pas ? Je vous lis un verset qui résume à la fois ces trois expressions. Dans Hébreux chapitre 8, verset 6, il est dit « Mais maintenant, il, en parlant de Jésus, a obtenu un ministère. » Je vous laisse trouver Hébreux 8, verset 6. Hébreux 8, verset 6. C'est bien. J'entends des pages qui tournent. Alors, je ne veux pas vous priver de la joie de voir ce verset dans votre Bible. Il dit « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur, voilà, supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Voyez. Et l'Épître est comme cela, hein. Meilleures promesses, garant d'une alliance plus excellente, n'est-ce pas ? Ministère supérieur, présente Christ, voilà, vraiment comme le don suprême. Il dit, vous avez reçu de lui le royaume, un royaume qui est inébranlable. Même si tout semble s'ébranler autour de vous, souvenez-vous, portez vos yeux sur cette réalité que vous avez reçu un royaume inébranlable. Et rendez à Dieu un culte. Honorez son nom. Offrez-lui vos louanges en vertu de ce que vous avez reçu un royaume inébranlable. Au verset 26, il disait ceci, hein. Verset 26 de notre passage, il parle de Dieu, il dit « Lui dont la voix ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore », c'est une citation de Agé, chapitre 2, verset 6, il dit « Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Et la Bible dit que les cieux et la terre passeront. D'accord, Jésus l'a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles demeurent éternellement. L'apôtre Pierre parle de la terre qui se dissoudra, les choses qui passeront avec fracas, et qu'il y aura établissement de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre où la justice habitera, n'est-ce pas ? Donc il y a un cataclysme à venir qui va faire disparaître les choses, et il dit au verset 27, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps. D'accord ? Les choses que nous voyons sont faites pour un temps. Elles peuvent nous paraître inébranlables, mais elles ne le sont pas. D'ailleurs, le Covid-19 nous montre que rien n'est inébranlable. La médecine n'est pas inébranlable, la santé n'est pas inébranlable. Et le monde lui-même n'est pas inébranlable, parce que l'Écriture dit que Dieu secouer, il va secouer, le mot c'est secouer, hein. Une secousse, et puis les choses ébranlées disparaîtront, et ce qui est inébranlable va demeurer. Et l'apôtre dit, vous avez reçu ce royaume inébranlable. Celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ est citoyen du royaume inébranlable, qui ne peut jamais être détruit. La cité dans laquelle Dieu est l'architecte, le souverain, celui qui règne éternellement. Il dit, voilà la certitude que vous avez. Vous l'avez reçu, dit-il, et vous continuez à le recevoir. C'est ça le sens ici. Vous l'avez reçu et vous continuez à recevoir ce royaume inébranlable. Et donc la perspective de l'ébranlement cosmique, on pourrait dire, hein, dont Pierre parle, eh bien, doit maintenir les croyants et les aider à fixer leurs yeux sur ce qui est inébranlable. Il doit conduire à la reconnaissance ceux qui sont en train de recevoir les choses du royaume de Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus disait en Luc. Il dit, ne crains point petit troupeau. T'es petit, ça paraît grand autour. Ceux qui sont contre paraissent énormes. Nombreux, mais il dit, ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ce royaume qui a été inauguré lorsque Jésus est venu sur la terre. Il l'a dit, hein, que vous savez que le royaume est venu jusqu'à vous quand il est venu. Ce royaume inébranlable que Dieu est en train d'établir. Ah, certes, il n'est pas encore manifesté complètement aux yeux de tous, mais il est bien réel. Et les chrétiens qui sont destinataires de cette lettre doivent le savoir. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi le savoir. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est à cette réalité-là qu'il nous faut regarder, à regarder à ce qui est immuable, à ce qui est inébranlable. Et le caractère de ce qui est inébranlable, de ce que Dieu offre, est la base de culte qu'on doit lui rendre. Quand nous rendons à Dieu un culte parce qu'il nous a fait citoyens de son royaume et qu'il nous fait recevoir le royaume qui est inébranlable, qui ne disparaîtra jamais. Et ça doit nous remplir de reconnaissance. Quand nous venons au culte, le cœur de l'adoration, c'est toujours l'œuvre que Christ a accomplie à la croix du calvaire. Parce que c'est par ce moyen que l'on a accès au royaume. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit à Nicodème, d'accord ? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc c'est la confiance en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ qui sauve et qui donne accès à ce royaume inébranlable. Les bénédictions terrestres, même offertes par Dieu, ne sont pas inébranlables. Le conjoint n'est pas inébranlable, la santé n'est pas inébranlable, le travail n'est pas inébranlable, la politique n'est pas inébranlable, mais le royaume que Dieu établit est inébranlable. Le royaume dans lequel les enfants de Dieu sont citoyens est inébranlable. C'est cette vérité que l'auteur veut fixer dans l'esprit des croyants qui sont découragés à cause de la situation difficile qu'ils vivent. La reconnaissance donc doit se manifester dans le culte et elle est basée sur cette réalité de ce que les croyants ont reçu en Jésus-Christ. Troisième chose que je voudrais souligner. Donc, premièrement, on a vu que le culte est une offrande à Dieu. On offre. Le culte est l'expression de notre reconnaissance basée sur l'œuvre que Christ a accomplie à la croix du calvaire pour nous et le fait que Dieu nous fait citoyens de son royaume et que nous sommes assurés que ce royaume ne sera jamais détruit. Et troisièmement, je voudrais souligner le fait que le culte sur la terre est lié au culte dans le ciel. Le culte sur la terre est lié au culte dans le ciel. L'auteur ici, certains disent que c'est l'apôtre Paul, moi je ne sais pas, mais en tout cas l'auteur ici de cette épître établit un contraste saisissant que nous avons lu entre les versets 18 et les versets 24, qui est marqué par versets 18 et 22 par « Vous ne vous êtes pas approché de » et puis au verset 22 « Mais vous vous êtes approché de ». D'accord ? Intéressant ça, hein ? Il montre, voilà, « Vous ne vous êtes pas approché, dit-il, de la montagne » on pense ici au Sinaï, « mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion ». Et les versets 22 et 24 soulignent de quoi ils se sont approchés. Et quand on rend un culte à Dieu, voilà de quoi on s'approche. Écoutez bien. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Le culte sur la terre est le reflet du culte dans les cieux. Lorsque les enfants de Dieu se réunissent, on pense, on est un petit nombre, là, on n'est pas très nombreux, on essaie de faire de notre mieux. On essaie de chanter tant bien que mal. Il y en a la moitié qui chante faux, l'autre qui chante à moitié faux. Et puis, on essaie d'écouter le prédicateur sans trop s'endormir, surtout si son message est très long. Et puis, pour nous, c'est ça, le culte. Eh bien, le culte, c'est plus que ça. Le culte, c'est la communion, à la fois sur la terre et dans le ciel, des anges, de ceux qui nous ont précédés dans la gloire, de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Vous pensez que votre bâtiment, il est terne, il est petit, mais en réalité, votre culte se déroule au ciel, dans l'immensité du ciel. La cité de Dieu, est-il dit ici. Vous pensez que votre champ, il est pauvre. C'est faux. Car nous sommes associés aux myriades de myriades qui forment le cœur des anges. Lorsque l'Église de Dieu sur la terre est rassemblée, eh bien la Bible dit ici que les myriades et des myriades d'anges sont associés et offrent à Dieu le culte. Nous ne les voyons pas. Mais lorsque l'enfant de Dieu se réunit avec ses frères et sœurs et offre réellement un culte à Dieu, il le fait en association avec le ciel. Donc ça n'est pas une petite affaire. Ça n'est pas du tout une petite affaire. Apocalypse 5, 11 dit « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. » D'accord. « Innombrables, dit le texte. Ceux qui sont associés aux enfants de Dieu pendant qu'ils rendent leur culte à Dieu. D'accord. Donc pensez, lorsque vous rendez culte à Dieu, nous sommes en communion par son esprit avec tous les saints, il dit ici les premiers-nés, dont les noms sont inscrits, tous les saints parvenus à la perfection, avec Dieu le juge, avec Jésus-Christ, par le sang qui a coulé au calvaire. N'est-ce pas? Tous en communion par son esprit. Vous dites, nous sommes peu, nos bancs sont vides, mais nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Vous vous rappelez de l'épisode, je pense que c'était Élisée, hein, avec son serviteur qui voit les ennemis, et puis il dit, oh Seigneur, ils sont nombreux. Et puis Élisée prie, et puis il dit à Dieu, ouvre-lui les yeux pour qu'il puisse voir. Il ouvre les yeux, il voit une armée d'anges. Une armée d'anges, ici. C'est invisible, mais c'est réel, ici. Et n'oublions pas que lorsque nous rendons à Dieu notre culte, c'est invisible, on pense qu'on n'est que nous. Hein? Mais il y a des myriades et des myriades d'anges. Abraham est là, Isaac, Jacob, Paul, Jean, Sœur Dina, Abdenour, tous. Ah, je ne sais pas s'il nous voit, je ne connais pas la théologie là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la Bible dit ici que nous sommes en esprit avec tous les saints. C'est de cela qu'on n'est pas encore approché parfaitement, mais on s'approche de ces myriades d'anges, de Dieu lui-même, de Jésus-Christ, par l'esprit qu'il nous a donné. Chers amis, la réalité céleste doit éclairer la réalité terrestre, et pas l'inverse. Il ne faut pas regarder à ce qui se passe ici pour essayer de comprendre ce qui se passe au ciel, mais il faut regarder à ce qui se passe au ciel pour savoir exactement ce que Dieu veut qu'il se passe ici. C'est depuis le ciel, c'est ce que l'Écriture dit du ciel, qu'il nous faut vivre le culte sur la terre. Tous les enfants de Dieu sont unis dans l'Esprit de Christ, afin de rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Donc quand nous venons le dimanche, ou que ce soit notre culte personnel, que ce soit notre culte de famille, ou le dimanche, n'oublions pas que nous venons pour offrir à Dieu le sacrifice de louange qui lui est dû et qu'il commande. N'oublions pas que nous le faisons avec reconnaissance. Nous devons être animés d'un esprit de reconnaissance. Même si nous n'avions aucune bénédiction terrestre, pour laquelle nous pouvons rendre grâce à Dieu. Il y a toujours cette bénédiction des bénédictions qui est le fait de recevoir le royaume inébranlable. Et puis, n'oublions pas que notre culte se passe en communion avec le culte dans le ciel. Dans le ciel. Cela nous amène à notre dernier point ici, c'est que le culte doit être conforme à la nature de Dieu, particulièrement à la sainteté de Dieu. Il dit ici, versets 28 et 29 encore, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. » Un culte qu'il accepte ici, avec piété et avec crainte. Car, voilà la raison, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu n'accepte pas tous les cultes. Alors, on va parler une autre fois de forme, mais Dieu n'accepte pas tous les cultes, parce qu'il est dit ici, rendez à Dieu un culte qui lui soit agréable. Il y a des cultes qui ne sont pas agréables à Dieu. Il ne suffit pas d'offrir chaleureusement, le plus chaleureusement possible, pour que ce soit agréable à Dieu. Ou de manière la plus somptueuse qui soit, pour que ce soit agréable à Dieu. Des spots, des lumières, de l'ambiance, de la belle musique, des orchestres, etc., des chorales. Ce n'est pas ça qui rend un culte agréable à Dieu. Écoutez ce que Dieu dit à Amos, au chapitre 5 et au verset 21. Il dit, je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Assemblée, c'est une église. Hein. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et vos veaux engraissés, et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, en reconnaissance, je ne les regarde même pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de ton luth, de ton piano, de ta guitare, de ta flûte, si vous voulez. On peut remplacer par ce qu'on veut. Il ne suffit pas de rendre à Dieu un culte, il faut lui rendre un culte qui soit un culte acceptable par lui. Et on verra une prochaine fois, c'est lui qui pose. C'est lui qui pose ce que doit être un culte. C'est lui qui dit ce qu'un culte doit contenir. Et ça, c'est très important. Le culte n'est pas pour nous, premièrement. Il est pour Dieu. C'est une offrande à Dieu. Si on offre quelque chose, je veux offrir un parfum à ma femme. Encore, souvent, des fois, j'achète, je vais au magasin et puis la dame, souvent c'est des dames qui sont dans ces trucs, hein, donc elle dit, bon, essayez celui-ci, essayez celui-là. Je dis, ouais, mais bon, elle me dit, vous aimez pas? Je dis, oui, j'aime, mais le problème, c'est que c'est pas pour moi. si c'était pour moi, j'allais acheter un truc, voilà, hein, 4 fois moins cher. Hein? Mais il faut que je sois certain que ce parfum-là, elle va l'aimer, que quand elle va le sentir, elle va pas faire, oh, pff, j'aime pas ça. Hein? Et donc, parfois, on vient devant Dieu et puis on offre ce qu'on aime, d'accord? J'aime bien cette musique, j'aime bien ce style, et donc je vais offrir cela à Dieu. C'est pas cela. Il dit ici que le culte rendu à Dieu doit lui être agréable. Le culte doit être rendu avec prudence et précaution. Le mot piété ici, c'est pas la ferveur chaude avec laquelle on chante quand il dit avec piété et avec crainte, mais le mot piété traduit, alors je vois dans le dictionnaire biblique, le mot prudence, prendre des précautions. Ça veut dire que quand on rend un culte à Dieu, on doit faire extrêmement attention à ce que l'on fait. Le culte agréable à Dieu doit nous faire être attentifs à ce qu'on fait. Par conséquent, il est question de faire particulièrement attention quand on s'approche de Dieu. Et le verset 29 soutient, d'accord, le sens de ce mot. Parce qu'il dit, car Dieu est un feu dévorant. Et que fait le feu dévorant? Il ne caresse pas, il dévore. D'accord? Donc il dit, attention à la manière avec laquelle vous rendez un culte à Dieu. Prenez vos précautions. Sachez si vous êtes conforme à ce que Dieu dit dans sa parole. Il y a des gens qui ont payé de leur vie parce qu'ils ont fait ou offert d'une manière non conforme à la parole de Dieu. Abihu. Vous vous rappelez Nadab et Abihu. D'accord, Uza, par exemple, hein, qui a voulu juste toucher, pour aider que l'arche ne tombe pas. Mais ce n'était pas conforme à la parole de Dieu. Le feu l'a dévoré. Et aujourd'hui encore, Dieu est un feu dévorant. Le culte doit être rendu avec une disposition respectueuse envers Dieu. C'est ce que exprime le mot crainte ici. C'est une disposition intérieure qui agit avec respect envers Dieu. Donc le culte est marqué par la conscience vraiment de la présence sainte de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu rencontre Dieu en un lieu et en un temps, le lieu et le temps deviennent saints. Lorsque le peuple de Dieu rencontre Dieu en un lieu et en un temps, le lieu et le temps deviennent saints. Lorsque le peuple de Dieu est réuni pour adorer Dieu, il y a une sanctification, une mise à part, une consécration à la fois de cet espace et de ce temps. Cela doit nous interpeller. Je vous invite à lire dans Exode chapitre 19, dont le passage est tiré. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. C'est juste avant, on a vu Exode chapitre 20 pendant le confinement où on voit que Dieu donne les commandements ici. Mais notez Exode chapitre 19 à partir du verset 9. Essayez de penser à l'aspect de la sainteté, je crois, de Dieu dans ce que vous lisez. Il dit, Exode 19 verset 20, il dit, et l'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende que je parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour. Et tu diras, gardez-vous de monter vers la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple et il sanctifia le peuple. Ils lavèrent leurs vêtements et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Le troisième jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, et des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple était dans le camp, fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme une fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Et Moïse parlait avec et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï. Sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends et fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse a dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne, le mont du Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, écoutez ce qu'il dit par rapport à la montagne, fixe la limite autour de la montagne et sanctifie-la. Tout doit être sanctifié lorsque Dieu se rencontre avec son peuple. Les hommes doivent être sanctifiés. Le lieu devient aussi sanctifié. La montagne devient mise à part. L'Éternel dit, va, descends, et tu monteras ensuite avec Aaron, mais les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Et Moïse descendit vers le peuple et dit ces choses. Alors l'Éternel prononça toutes ces paroles, dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Voilà comment Dieu se présente. D'accord ? Et dans notre texte du livre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, dit « Eh bien, vous ne vous êtes pas approché, il dit à ses lecteurs, de cette montagne-là, d'accord, qu'on pouvait toucher tangiblement, mais qui était inaccessible. À cause de quoi ? Bien, à cause de la sainteté de Dieu et du péché du peuple. Mais maintenant, dit-il, par le sang de l'aspersion qui est en Jésus-Christ, vous avez accès au trône de la grâce. Le problème, c'est que je pense que nous perdons de vue que le même Dieu qui s'est montré de cette manière, qui a montré sa sainteté de cette manière aussi terrifiante, même Moïse dit, moi-même j'ai été effrayé. Hein. Il dit ici, nous oublions que c'est le même Dieu que nous pouvons approcher par Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'auteur, je pense, dit ici, car Dieu est aussi un feu dévorant. Nous ne devons pas oublier que Dieu est aussi un feu dévorant. Il a été avec Nadab et Abihu. Il a été avec Uzza lorsque Uzza n'a pas rendu un culte conforme à Dieu. Il a été avec Ananias et Saphira lorsqu'ils n'ont pas rendu un culte conforme à ce que Dieu voulait, mais qu'ils ont menti. Et il a été un feu dévorant aussi avec l'église de Corinthe, lorsqu'ils ont méprisé la table, le centre même du culte, l'apôtre Paul le dit lui-même, en faisant mourir des croyants qui ne rendaient pas un culte conforme à Dieu. Et peut-être que certainement dans l'histoire de notre monde, il y a eu d'autres cas comme cela, nous ne les connaissons pas parce qu'ils ne sont pas rapportés dans la Bible, mais ils existent. Qu'est-ce que nous voulons dire ici ? C'est que nous devons être absolument, absolument attentifs et précautionneux lorsque nous rendons un culte à Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne frappe pas toujours de la même manière, mais il est toujours le feu dévorant et nous ne devons jamais l'oublier lorsque nous nous approchons de lui. Christ est le médiateur, certes, d'une alliance plus excellente, nous dit l'Écriture. Donc nous pouvons nous approcher de lui. Hébreux 10, 19 dit « Frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par une route nouvelle et vivante qu'il nous a inaugurée, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Voyez ? On a un accès, mais attention, on ne s'approche pas non plus n'importe comment. N'importe comment. Il faut être purifié. Et donc, je termine en disant que, chers amis, le croyant, il n'est pas appelé à assister au culte, mais à participer au culte. Et ne pas participer au culte, c'est un péché. Parce que le culte n'est pas la volonté d'un homme, c'est la volonté de Dieu. Aucun homme ne s'est jamais levé pour dire « Ah, ce que Dieu a fait est bon. » Eh bien, je pense que ce serait bien de lui rendre gloire, que nous lui rendions un culte. Non, l'Épître aux Romains dit, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié, ils ne lui ont point rendu grâce. Voilà ce que c'est le cœur naturel de l'homme. Connaît Dieu, mais il ne lui rend point grâce. D'accord. Et donc, quand Dieu sauve, c'est lui qui dit, je veux que vous me rendiez un culte. Il dit au peuple d'Israël, vous irez là-bas et vous me servirez sur cette montagne. Le culte d'adoration, le commandement de Dieu. Donc, ne pas assister au culte. Ne pas participer au culte est un péché. C'est un péché. Nous devons faire tous nos efforts pour participer au culte. J'ajouterai aussi que nous devons nous préparer pour le culte. Voyez-vous ce que Dieu dit dans Exode, là où nous avons lu, il dit, tu diras au peuple qu'il soit prêt pour le troisième jour. Je crois qu'on doit entendre Dieu qui nous dit qu'il soit prêt chaque jour pour notre culte personnel, mais aussi collectivement, chaque dimanche, que nous nous préparions pour lui rendre l'honneur qui lui est dû. Et nous devons faire absolument tout, pour répondre à la sainte convocation, ce qui est la signification de l'Église d'ailleurs, que Dieu nous donne. Et troisièmement, je voudrais dire, nous ne devons pas oublier la sainteté de Dieu. Nous ne devons faire tout ce qui est en notre possible pour ne pas profaner le culte de Dieu. Quand je suis en retard systématiquement, je profane le culte de Dieu. Je dérange ceux qui sont en train d'adorer Dieu. Je n'offre pas tout le temps que je devrais offrir à Dieu. Parce que tout le culte, c'est Dieu qui doit être adoré, de la première minute à la dernière minute. Et quand je m'absente, quand je viens quand je veux, je pars quand je veux, je dois être conscient que je profane. Je dis que ce n'est pas pour moi un lieu saint. Je peux y entrer comme je veux et y sortir comme je veux. Dieu est aussi, encore aujourd'hui, un feu dévorant. Ça, c'est l'enseignement que nous pouvons, que nous devons retenir ce matin. Adorons Dieu comme il le doit. Il nous a donné un royaume inébranlable. Offrons-lui notre vie, notre temps, notre argent, tout ce que nous avons. Parce que tout vient de lui. Mais n'oublions pas que nous devons le faire d'une manière qui lui soit agréable, avec le saint respect dû à sa sainteté. Parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Prions. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole. Et nous te prions que tu puisses nous aider à développer une conception du culte qui est conforme à ce que ta parole nous enseigne. Nous avons peut-être chacun nos idées sur ce que devait être un culte. Mais Seigneur, je te prie vraiment que tu nous donnes d'être soumis à ta parole. Nous voyons combien l'adoration est une chose que tu réclames de la part de tes enfants. Et nous lisons que tu cherches des vrais adorateurs. Et nous te prions, Seigneur, de nous détourner de nous-mêmes, de nos conceptions, de nos opinions, pour nous aider à embrasser la vérité de ta parole. Pardonne-nous, ô notre Dieu, pour toutes les fois où nous avons, par un cœur impréparé, par un retard, par une légèreté, profané ton culte. Nous te prions de nous aider à avancer avec toi de progrès en progrès pour la gloire de ton nom, à aimer ces instants où nous pouvons être réunis avec nos frères et sœurs et avec les myriades d'anges, les saints parvenus à la perfection, avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donne-nous encore de considérer ces choses qui sont merveilleuses, et que ton esprit fasse vivre ces réalités dans nos cœurs pour la gloire de ton nom. Amen.